Je vous ai dit, hein, il y a une composante importante dans ce qu'on va faire qui est sur l'outillage conceptuel. Donc au début, je me suis dit, il faudrait que j'intitule cette présentation « Déterminants phénoménologiques et sémiologiques d'une instrumentation vidéo, perspective ergonomique ». Bah oui, alors. Puis après, je me suis dit, finalement, pourquoi pas la vidéo, pourquoi faire ? Mais enfin bon, quand même, si on fait un tout petit peu d'outillage conceptuel, parce que évidemment, quand on met ça, on n'a pas vraiment envie de regarder ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais qu'on prenne juste 30 secondes pour se dire finalement pourquoi on s'intéresse à la vidéo et qu'est-ce qu'il y a à s'intéresser pour la vidéo, pour former des gens. Déterminant phénoménologique. Qu'est-ce que ça pourrait être une phénoménologie ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être la phénoménologie ? On y va, on discute, on a le droit de se tromper, c'est pas noté, on ramasse pas les copies. Tu dirais que c'est du contexte, ce qui détermine le contexte. Ce qui apparaît tel que ça apparaît. Je vais garder ces aspects-là. Alors, phénoménologie, les phénomènes, donc tout ce qui se manifeste à la conscience, donc c'est tout ce qui apparaît, tout ce qu'on perçoit. Logie, c'est on va s'intéresser à ça, on va produire des connaissances sur ça. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est ce que perçoivent les enseignants dans la vidéo. C'est ça, les déterminants phénoménologiques. Si on n'a pas d'idée de ce que voient les enseignants dans les vidéos, ça va être difficile de concevoir de la formation à partir de la vidéo. Des déterminants sémiologiques. Qu'est-ce que ça pourrait être, la sémiologie ? Ça, c'est clair pour tout le monde. Ce sont les significations qui sont produites. Encore une fois, si on n'a aucune idée des significations que produisent les enseignants lorsqu'ils regardent des vidéos, ça va être difficile de concevoir de la formation à partir de la vidéo. Il faut savoir ce qu'ils perçoivent dans la vidéo, il faut savoir ce qu'ils comprennent dans la vidéo. Je vous dis ça comme si c'était évident, ce sont les questions de base de toute la recherche sur la vidéo formation des enseignants. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire une instrumentation vidéo ? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire instrumenter la vidéo, plutôt qu'utiliser la vidéo ? Alors, donner des clés pour lire la vidéo ? Une autre proposition ? Interroger, problématiser, voilà. Donc ça veut dire qu'on va pas simplement utiliser la vidéo, comme si, comme le disait Patrick, elle avait des vertus en elle-même. Il va falloir scénariser l'utilisation de la vidéo. Il va falloir l'instrumenter, c'est-à-dire utiliser des moyens utilisant la vidéo, mais dont la vidéo ne sera pas forcément la pierre angulaire, pour poursuivre des objectifs de formation. Encore une fois, peut-être que vous avez l'impression que je dis des banalités, mais enfin, je préfère le dire. Alors, les perspectives ergonomiques, qu'est-ce que c'est l'ergonomie ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que l'ergonomie ? Adaptation du matériel à l'utilisation, à l'utilisateur, au contexte, c'est pour ça que je répète, au contexte, donc au travail normal. Hein, ergo, le travail, normes, les règles. L'ergonome, c'est un métier, hein, l'ergonomie, ça existe. Ce sont les gens qui vont analyser les situations de travail pour déterminer comment est-ce qu'ils pourraient aider les travailleurs, les opérateurs à mieux travailler. Bon ben nous, on se considère un peu comme des formateurs ergonomes. C'est-à-dire que on pense que pour aider les gens à mieux travailler, d'une part, il n'y a pas que la formation. Il y a aussi des leviers de transformation qui sont dans les situations de travail qu'on peut aménager. Et d'autre part, tous les moyens qu'on va pouvoir délivrer à des gens pour les aider à mieux travailler, s'ils ne se préoccupent pas des situations réelles de travail dans lesquelles ça doit fonctionner, alors il a toutes les chances que ce qu'il propose, ça ne fonctionne pas. Donc c'est l'idée que ce qu'on vous propose, c'est faciliter le travail, c'est ça le travail du formateur, hein, c'est faciliter le travail des gens qu'il a à travailler. Alors quand on dit faciliter le travail, il y a beaucoup de choses derrière, hein. Il y a beaucoup de moyens de faciliter le travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut uniquement que ce soit plus facile pour l'opérateur, c'est-à-dire qu'il puisse travailler en slack ou en douce ? Non. Mais il y a bien cet enjeu de plus d'efficacité et moins d'énergie. On sait bien que, notamment pour ceux parmi vous qui ont à la fois la classe et à la fois des missions de formation, vous avez double emploi du temps, parfois vous êtes même un peu schizophrène sur les bords. La santé, c'est pas toujours, les enjeux de santé sont pas toujours simples et il faut qu'on s'en préoccupe dans une exception large. Hein. La santé, c'est pas juste est-ce que je suis malade ou est-ce que je suis pas malade. Il y a est-ce que je fais du travail que moi je pense être du bon travail, que mon équipe pense être du bon travail et qui fait qu'on arrive à faire réussir les élèves puisque c'est ça qui nous intéresse quand même in fine. Donc la vidéo, pourquoi faire ? Je vous propose d'avancer, alors il y a des choses que vous ne comprenez vraiment pas, bonjour, Vous n'hésitez pas à lever la main et à me le dire. Sinon, on se gardera un temps de questions à la fin de la présentation ou cet après-midi si on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Alors, bon, pourquoi on fait une formation de formateur sur la vidéo formation ? Parce qu'on pense que c'est un support privilégié de formation, sinon on ne mettrait pas autant d'énergie à essayer de vous proposer des moyens de l'utiliser. C'est un support privilégié du côté des formés et du côté du formateur, mais à certaines conditions. De manière très générale, et il faut prendre ça avec des précautions parce que tant qu'on est dans les généralités, évidemment, plus on rentre dans le détail et moins c'est valide. Mais de manière générale, pour le formé, l'avantage de la vidéo, c'est une confrontation au réel des situations. C'est un bon moyen de reconvoquer le réel des situations de travail dans les situations de formation. La vidéo étant toujours une réduction de la situation réelle, mais une réduction assez acceptable, parce qu'elle constitue une représentation assez riche de la situation de départ. Par rapport à des évocations langagières, si on fait un tour de table et que je dis « vas-y, raconte-moi ta séance d'hier », l'évocation que va en faire un stagiaire, elle aura son intérêt, mais elle ne sera pas formulée, modélisée de la même façon, métaphorisée même de la même façon qu'une restitution vidéo qui va proposer davantage d'objectivité la plupart du temps dans la situation. Donc ça permet de confronter le formé au réel, aux pratiques, au complexe aussi. C'est-à-dire qu'une situation de classe est quelque chose qui est très complexe, il se passe une multitude de choses et pas uniquement la belle trame didactique qu'on a envie de transmettre à l'enseignant qu'on a dans sa formation. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la belle trame didactique, mais ça veut dire qu'il faut voir dans quelle mesure cette belle trame didactique, elle est possible par rapport à la réalité de la classe, qui est quelque chose qui est mouvant, difficile à saisir, difficile à comprendre. Et enfin, c'est un moyen de confronter le formé aux dimensions corporelles de l'activité. Il y en a parmi vous qui sont issus du champ de l'éducation physique et sportive. Pendant un moment, il y avait une grosse critique qui venait sur l'EPS d'une idée d'une EPS papier-crayon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, si ça vous parle. Cette idée où les élèves seraient en EPS et puis ils rempliraient des grilles, quoi. Ils seraient plus dans la motricité, dans l'apprentissage des choses à faire. Bah, finalement, si on considère que enseigner c'est une activité motrice, gestuelle, corporelle. Ça veut dire qu'il faut l'investir aussi dans la formation. Et qu'il faut, si on fait des formations papier-crayon, on oublie la dimension corporelle, gestuelle de la formation des enseignants. Et la vidéo, c'est un outil qui peut être intéressant pour reconvoquer cette dimension-là de l'activité. Alors là encore, c'est assez général, mais de manière générale, ce qu'on constate en formation, c'est quelque chose d'un peu captivant, motivant. Un engagement intéressant des formés dans la situation de vidéo formation entre guillemets. Alors c'est pas toujours le cas. Nous on a un peu dans les gens avec lesquels on travaille, dans les formateurs avec lesquels on travaille, on a des fans notamment de la plateforme Neopass Action. Et là Neopass Action, ça a été lancé en septembre 2010. Et là ils commencent à avoir des étudiants qui leur disent ah non non mais là cette vidéo c'est bon, on l'a déjà vu l'année dernière avec un tel, bon celle-là aussi bon. Donc, effectivement, quand on vous propose des corpus de vidéos, c'est intéressant parce que ça vous évite d'avoir à les faire, mais il faut aussi faire attention de ne pas tourner sur les mêmes vidéos. Ce qu'on fait nous, hein, d'ailleurs, ceux qui sont déjà là, ils vont revoir encore les mêmes vidéos. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai mis vidéo formation, entre guillemets, je vais le dire maintenant, puis comme ça, après, ça sera réglé. Vidéo formation, c'est un terme un peu fourre-tout. On le met comme ça, avec une définition minimale, cette idée selon laquelle il y a de la vidéo dans la formation. Voilà, la vidéo formation, ça va être une formation qui va mobiliser des ressources vidéo, mais on va tout de suite abandonner l'idée selon laquelle la vidéo, elle va former les gens toute seule. Voilà, je le dis comme ça. C'est simple et c'est efficace. Donc, pour le formateur, quel intérêt ça peut avoir pour son travail à lui de formateur ? Bah déjà, en 2015, il y a une grande facilité d'utilisation, de la légèreté, de la maniabilité des caméras, des tablettes, des smartphones. C'est de plus en plus facile de produire de la vidéo. Patrick l'a fait encore assez récemment. Avec un smartphone, on arrive à recueillir des matériaux tout à fait intéressants dans une situation de classe qu'on peut réutiliser dans des espaces de formation. La tablette, ça a cet avantage que c'est un bon compromis entre enregistrer des images et rediffuser sur le même dispositif les images assez rapidement par la suite. si vous utilisez une caméra, il y a un moment où il va falloir, alors vous pouvez montrer sur la caméra, mais c'est pas terrible de montrer sur la caméra, l'écran est petit. Mais si vous avez besoin de faire un débriefing rapide après une situation de classe, par exemple, la tablette, c'est pas mal parce que vous enregistrez et vous avez directement un support de taille raisonnable et vous n'avez pas besoin de transférer les données d'un dispositif à un autre. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, on a au moins trouvé une utilité à la tablette. C'est bien. Autre chose, dans notre ère contemporaine, il y a de plus en plus de facilité de stockage, de montage, de partage, de diffusion des vidéos. Quand on travaille à plusieurs dans des équipes pour monter des corpus sur la façon comment on va partager des extraits vidéo qui sont intéressants à investir en formation, il y a de plus en plus de facilité de les partager, de les travailler à plusieurs et de les faire travailler à distance aussi. Puisque ça va être aussi quelque chose qu'on va investir durant ces deux jours. Comment est-ce qu'on utilise de la vidéo à distance? Enfin, c'est de plus en plus facile aussi de sélectionner des extraits, de répéter des extraits, de passer au ralenti quand on va s'intéresser à des habiletés fines. Tout ça, ça fait de la formation, de la vidéo, un support assez privilégié pour travailler sur différentes dimensions de l'activité enseignante, qu'on ne peut pas forcément faire uniquement avec des évocations langagières ou écrites qu'on retrouve la plupart du temps dans la formation. Alors, ça aussi, je me le suis mis comme point de vigilance parce qu'il faut qu'on se le dise une fois, sinon après on va oublier. La limite qu'il peut y avoir à ça, c'est que quand on enregistre dans des situations d'enseignement, la plupart du temps, quand on va former des enseignants, les vidéos qu'on va utiliser en formation, ça va être des situations d'enseignement, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être du travail de groupe, c'est pas forcément du cours magistral, entre guillemets, ou du cours dialogué, mais enfin, ça va être des situations de classe. Or, si par exemple les ergonomes, ils peuvent très souvent filmer les opérateurs au travail et faire verbaliser les opérateurs sur leur travail en même temps qu'ils font, si c'est un ouvrier à la chaîne par exemple, quand on travaille avec des enseignants, c'est plus difficile de faire verbaliser un enseignant ce qu'il est en train d'enseigner, puisqu'il est déjà en train de parler aux élèves. Donc ça veut dire que c'est une situation de travail qu'on peut pas trop perturber. Donc vous le savez bien, hein, quand on veut être dans une classe et qu'on veut pas la perturber, bah, on est en fond de salle. Et si on veut filmer, on va filmer du fond de la salle. L'inconvénient que ça a, c'est que si on a un dispositif un peu minimal, on risque de pas avoir bien le son. On risque de pas avoir bien le son des enseignants. Alors nous, on a de la chance ici, on a des micros haute fréquence qui nous permettent d'équiper nos enseignants, et ce qui fait que dans NeoPass Action, on entend bien les enseignants. Mais si vous êtes au fond de la salle avec votre smartphone, ça risque d'être un peu limite. Or, le son... Pour les situations d'enseignement, c'est quelque chose qui est très important puisqu'il y a énormément de choses qui passent par les interactions langagières. Et même nous, avec nos configurations très technologisées, on a souvent du mal à avoir les interactions, par exemple, entre les élèves. À moins vraiment de pouvoir sonoriser une salle, ce qui n'est pas à la portée du formateur lambda, ça peut être difficile d'avoir de choper ces interactions-là langagières dans les situations de classe. Donc ça, il faut y penser avant. Quand on veut faire un bout de vidéo dans une classe, il faut se dire d'abord, est-ce que je vais vraiment arriver à choper le son? Et nous, on travaille toujours au casque, parce que ce que vous entendez, vous, au fond de la salle, c'est pas ce qu'entend votre caméra. Et vous risquez d'avoir des matériaux qui sont pauvres après quand vous voulez les réutiliser en formation. Voilà. Il y a plusieurs configurations possibles d'utilisation dans la vidéo, des configurations formelles, c'est-à-dire des configurations qu'on pourrait reconnaître de l'extérieur, sans rien savoir du projet pédagogique du formateur, on pourrait dire « Ah, ça, c'est une telle ou telle situation ». Donc je vais vous les proposer, je vais vous les énumérer. Il y a d'abord les configurations dans lesquelles l'enseignant que vous avez en formation, le formé, il est confronté à des vidéos de lui-même. D'accord ? Donc la première configuration, la plus simple, c'est l'enseignant qui est seul dans la formation, donc dans le cadre d'un accompagnement, d'un suivi, de conseils, d'une formation qui s'apparente à du conseil pédagogique. Vous confrontez l'enseignant à des traces vidéo de sa propre activité, c'est ce qu'on appelle l'autoconfrontation. C'est une première forme d'utilisation de la vidéo, dont on va reparler pendant deux jours, qui est d'abord d'ailleurs il faudrait revoir, j'en suis plus si sûr depuis quelques temps, mais c'est un dispositif de recherche, beaucoup l'autoconfrontation. Moi, mes recherches, elles reposent notamment sur l'autoconfrontation, c'est-à-dire que je vais filmer les gens dans leur situation de travail, de formation, d'activité, et puis je les confronte à des traces de ces activités pour pouvoir rentrer dans le détail de tout ça. Mais c'est aussi un support de formation, c'est pour ça que ça nous intéresse. On va voir comment est-ce qu'on peut instrumenter cet usage de la formation. Et c'est aussi un support de conception de ressources, puisque dans la plateforme Neopass Action, pour ceux qui sont allés voir, on vous propose pas que des situations d'enseignement, on vous propose aussi l'autoconfrontation de l'enseignant à sa situation de classe, pour pouvoir accéder à sa compréhension de la situation de classe. Alors vous pouvez aussi confronter plusieurs personnes à l'enregistrement de l'activité de ces plusieurs personnes. Donc la perspective et les enregistrements sont croisés entre les collègues, et donc on parle d'autoconfrontation croisée. Dans quel cadre on va faire de l'autoconfrontation croisée? Dans la mesure où les gens partagent toute une partie de leurs activités. Pas forcément toute ou partie de leur métier. C'est-à-dire que ça, c'est un outil assez redoutable, notamment dans le travail intermétier. Quand vous devez travailler avec des gens, vous partagez des activités, mais ces gens ne font pas la même activité que vous. Il y a un intérêt à mieux connaître l'activité de l'autre, parce que Stéphane, au fond, en parlerait mieux que moi. Si vous voulez en savoir plus, vous lui demanderez. Mais dans le travail partenarial, souvent, ce qui fait obstacle, c'est la méconnaissance du travail de l'autre. Et ces outils-là, dans des formations intermétiers, c'est difficile à monter les formations intermétiers, je ne sais pas si vous en faites, si c'est un objet de formation pour vous, mais c'est quelque chose qui est très important, et cette forme d'autoconfrontation, elle est assez pertinente dans ce cadre-là. Ça va jusque-là ? Alors ensuite, vous pouvez confronter les enseignants à des vidéos qui ne les concernent pas eux directement, à des vidéos d'autres enseignants. Donc vous pouvez avoir un enseignant seul qui va être confronté à l'activité d'un autre enseignant. Donc là, ce que j'ai mis dans le moniteur, c'est la plateforme Neopass Action, puisque on vous propose là une banque vidéo de 1200 vidéos basées donc sur l'analyse de l'activité de différents enseignants. Donc c'est ce qu'on appelle l'allo-confrontation, la confrontation à l'activité d'autrui. Donc même chose, hein, on peut faire une allo-confrontation dans laquelle on a un seul stagiaire, si on est dans un cadre de conseil pédagogique, ou on peut avoir un collectif d'enseignants qu'on va confronter à des vidéos d'enseignement, donc on est sur une allo-confrontation collective. Donc il y a une différence avec l'aspect croisé de l'auto-confrontation, parce que quand on croise, on accepte de montrer sa propre activité aux collègues. Donc chacun est filmé dans sa classe et montre son activité aux collègues. Là, personne ne montre son activité. On va chercher des vidéos qui concernent des collègues lambda, notamment par exemple sur la plateforme Neopass Action, et on va les projeter et en faire un objet de travail dans des collectifs, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'intéressait aux propriétés formelles des situations de vidéoformation, alors on pourra en trouver d'autres, hein. Ce que je vous propose, c'est les quatre configurations qu'on retrouve le plus ordinairement dans l'utilisation de la vidéo pour former des enseignants. Mais ça nous dit pas ce qu'on y fait. Ça nous dit simplement la structure de la situation. Alors, encore une fois, on est assez général là dans ce qu'on va présenter, mais je vais vous dire quelles sont les tendances qui sont encouragées par ces configurations-là, c'est-à-dire si vous mettez un enseignant dans cette situation de formation, vous avez de bonnes chances qu'il se passe ça chez lui, et vous avez de bonnes chances que ça vous demande ça à vous en tant que formateur. Ensuite, on va rentrer encore dans le détail de ça. Donc l'autoconfrontation, la confrontation d'un enseignant à sa propre activité, ça a d'abord tendance à lui rappeler l'activité passée. Ça a l'air évident, mais vous avez besoin, par exemple, dans le cadre d'un suivi de conseil pédagogique, de travailler avec un enseignant sur du temps long, ça peut être intéressant de le resituer dans, par exemple, son activité de début d'année. Un objectif pédagogique possible pour ça, c'est de lui faire prendre la mesure de son déplacement entre le début de l'année où on a filmé une première situation de classe et la fin de l'année où, espérons-le, il s'est développé et il a transformé ses moyens d'agir dans les situations de classe. Bon, c'est une des modalités possibles où ça peut tout simplement servir d'ancrage dans la situation, même si elle vient juste de se passer, pour pouvoir vraiment se rappeler des choses fines. Évidemment, l'enseignant, quand il enseigne, il n'est pas attentif à chaque instant à ce qu'il est en train de faire. Il est plutôt attentif à aux indices dont il a besoin pour enseigner. Donc il va se focaliser beaucoup sur l'activité des élèves. En tout cas, on va nous l'inciter à se focaliser sur l'activité des élèves. Et donc l'autoconfrontation, ça va être un moment où on va l'inciter à se concentrer sur sa propre activité. L'autoconfrontation, ça va nous permettre d'expliciter de façon très fine l'activité qui a été vécue. C'est ce qu'on appelle documenter l'activité. Dans le dossier partagé, je vous ai mis un guide pour une explicitation fine en autoconfrontation qui est proposée par un collègue de Rennes qui s'appelle Jean Troel. Donc on va avoir des méthodes de guidage de l'entretien. Parce que quand on est en autoconfrontation, on est toujours finalement dans rien d'autre qu'une situation d'entretien, d'entretien conseil, vous diriez peut-être pour ceux qui sont conseillers pédagogiques parmi vous. Ce qu'on vous propose avec des méthodes d'autoconfrontation, c'est de mettre la focale, d'insister sur la partie d'entretien pour rentrer finement dans les détails de l'activité et peut-être pas aller trop vite sur du conseil. C'est-à-dire, est-ce que moi, formateur, j'ai une bonne compréhension de l'activité telle qu'elle s'est déroulée, notamment du point de vue de l'enseignant? Est-ce qu'on a un diagnostic partagé? Est-ce qu'on a une interprétation partagée avec l'enseignant? Est-ce qu'on a la même lecture de la situation? Parce que sur cette base-là, il sera beaucoup plus facile de greffer ou de produire du conseil pédagogique par rapport à ce qui peut rester de façon complètement implicite, un malentendu entre le formateur et le formé. Donc cette explicitation, elle va notamment permettre une décentration du point de vue du formé. Et d'une certaine mesure aussi une décentration du point de vue du formateur, qui lui, quand il a regardé la situation, n'a vu que ce qu'il pouvait interpréter à partir de ses propres cadres de formateur. Et faire expliciter finement l'activité par l'enseignant, ça permet pour le formateur d'avoir une nouvelle lecture de la situation et pour le formé de saisir son activité à nouveau frais et puis éventuellement aussi de pointer des aspects de son activité qui lui sont révélés à ce moment-là, notamment dans la médiation du formateur qui va mettre lui le doigt sur des aspects qui lui semblent importants dans l'activité et que l'enseignant n'avait pas forcément pu saisir au moment où il agissait. Et donc ça va contribuer à ce que je viens de dire, c'est-à-dire une interprétation partagée avec le formateur, sur laquelle j'insisterai lourdement, parce que on a beaucoup de collègues qui s'intéressent, je vous l'ai dit, on s'intéresse tous à l'activité réelle, à ce qui se passe vraiment dans les situations de travail. Les collègues qui s'intéressent aux situations de conseil pédagogique, sans qu'il y ait de la vidéo ou pas de la vidéo, se rendent compte qu'il y a énormément de malentendus entre ce que veut faire passer le formateur et ce que comprend le formé. Et donc, on a des situations de conseil. D'ailleurs, il y a un thème sur Néopace Action qui s'appelle « Débuter comme conseiller pédagogique, formateur, etc. » dans laquelle ça, c'est illustré. On a une situation de conseil. Si on la regarde comme ça, on a l'impression qu'elle est normale, que la formatrice conseille, prodigue du conseil et propose des solutions, quoi, pour le travail. Et lorsqu'on autoconfronte le jeune enseignant à cette situation et qu'il nous explicite ce qu'il a compris dans cette situation-là, on se rend compte qu'il a absolument rien compris de ce que lui disait la formatrice. Et pourtant, il lui a fait ça. Hein. Il lui a fait ça tout le temps, oui. Tout laisser à penser qu'il avait compris, en fait, il n'avait pas compris. Donc j'insisterai lourdement sur cet aspect-là, qui est un peu contre-intuitif, hein, je le vois avec les étudiants en master. Souvent, on comprend bien qu'il y a un enjeu là derrière, mais souvent, on sous-estime la portée de cette chose-là. Et souvent, c'est quand on fait le test de l'autoconfrontation, on a deux collègues de conseillers pédagogiques de l'Ain qui sont revenus ici dans cette formation en ayant testé l'autoconfrontation et en ayant vu quelle nouvelle lumière ça pouvait vraiment jeter sur la situation. On a notamment une collègue qui nous avait dit j'ai une enseignante avec laquelle j'arrivais rien à faire, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui était important, j'arrivais pas à lui faire entendre raison entre guillemets, lui proposer des pistes. Et à l'issue d'un entretien d'autoconfrontation, elle a eu cette phrase, cette jeune enseignante, elle lui a dit: maintenant je peux te croire. Et cette phrase-là, elle a eu beaucoup d'impact aussi pour nous parce que il y a beaucoup de ça. C'est ça l'interprétation partagée. C'est est-ce qu'on finalement on est bien d'accord sur le diagnostic de la situation? Parce que il faut le partager ce diagnostic parce que sinon le conseil que vous allez prodiguer, il va pas prendre quoi. La greffe, elle va pas prendre. Alors l'autoconfrontation, qu'est-ce que ça demande aux formateurs ? Bah, ça demande une méthode d'utilisation de la vidéo, c'est-à-dire comment est-ce que j'enregistre, on en a parlé un petit peu, comment est-ce que je sélectionne les extraits, comment est-ce que je les diffuse. J'ai dit que c'était facile quelques diapos plus tôt, mais encore une fois, faut-il se poser la question de comment est-ce qu'on s'y prend réellement dans les contextes ordinaires dans lesquels vous intervenez. Je ne sais pas si toutes les circos sont équipées de tablettes, pas sûr. Et puis, ça demande, et j'ai oublié quelque chose là, ça demande aussi une méthode de conduite d'entretien, c'est-à-dire que si vous vous jetez à l'eau, dans le grand bain, vous pouvez être là avec votre enseignant, confronté à l'activité, qui vous regarde, et puis vous savez juste pas quoi lui dire, sur quoi attirer son attention, quelles questions lui poser, il y a ces choses-là. Tout ça, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, ça demande aussi une instrumentation de l'observation du stagiaire. C'est-à-dire que quand on est en situation d'autoconfrontation, c'est pas pour lui dire « Tu vois, regarde, je te l'ai bien dit. Regarde. » Alors, vous avez le droit, évidemment, de montrer dans la vidéo des choses qui auraient pu être transparentes pour lui au moment où il agissait. Mais j'insiste sur le fait que l'autoconfrontation, c'est pas... l'outil de légitimation de la domination du formateur, quoi. Hein. C'est-à-dire, je vais enfin pouvoir lui montrer que c'est moi qui ai raison et que lui, il a pas compris, quoi. C'est vraiment un outil de diagnostic partagé. Quelle différence avec l'autoconfrontation croisée, c'est-à-dire avec différents collègues qui vont tour à tour être confrontés à leurs enregistrements de classe? Bon, d'abord, ça encourage les mêmes choses que précédemment, hein, puisqu'on est dans la même configuration, c'est-à-dire je suis confronté à ma propre activité, donc il se passe les mêmes choses, rappel, explicitation fine de ce qui se passe dans l'activité, décentration du point de vue, qui est exacerbée par le fait qu'on a plusieurs points de vue en présence, et puis interprétation partagée, qui va être un enjeu plus compliqué, parce que plus on est nombreux à avoir un point de vue sur la question, et plus ça va être difficile d'atteindre un consensus. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir quelque chose en plus dans l'autoconfrontation croisée qui va être un débat de normes. Puisque quand on est confronté à l'activité du collègue, forcément, on va avoir, ça va activer chez nous des normes, différentes normes, je rentre pas dans le détail ici, on le fera pendant ces deux jours, globalement, des normes relatives au travail. Est-ce que c'est du travail bien fait? Et puis, est-ce que c'est tout ça, c'est acceptable de mon point de vue? Est-ce que c'est soutenable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire durablement dans sa classe? Ou est-ce que c'est une méthode pédagogique d'exception, d'urgence, qu'on va pas pérenniser dans les classes? Tout ça, ça se discute. Et l'autoconfrontation croisée, c'est un bon moyen de faire débattre des normes et débattre des critères du travail bien fait. C'est-à-dire, quand on est enseignant, qu'est-ce que c'est le travail bien fait enseignant? Est-ce que c'est uniquement agir en fonctionnaire éthique et responsable? C'est ça, hein, je crois, la compétence 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a posé ça, la compétence agir en fonctionnaire éthique et responsable, qu'est-ce que ça veut dire pour le travail? Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà coltiné cette question en formation. Si on monte le travail réel et puis qu'on décortique ces aspects-là du prescrit, hein, le référentiel de compétences qu'il faut faire construire aux enseignants. Quand on descend dans le travail réel, ça promet potentiellement des batailles homériques. Mais les batailles homériques, elles sont formatrices. Si on sait les instrumenter en tant que formateur, c'est bien là tout le problème. Donc, qu'est-ce que ça demande aux formateurs? Bah, la même chose, hein, il faut savoir les guider, ces entretiens d'autoconfrontation. Mais il va falloir davantage savoir les réguler et les adresser, puisque vous allez avoir plusieurs personnes en présence, avec des regards normatifs, avec tous les précautions à prendre, hein, sur le fait qu'on ait des gens qui vont porter des jugements sur le travail des autres. Comment est-ce qu'on préserve l'intégrité morale des collègues qui sont en présence? Bon, ça, c'est un problème de formateur qui est pas nouveau avec la vidéo, qui est peut-être un peu plus exacerbé avec la vidéo, parce que montrer son travail, c'est pas évident, hein, par rapport à évoquer simplement son travail. Et donc, il va falloir adresser ça de façon multiple, puisque vous avez plusieurs enseignants en présence. Alors, l'allo-confrontation. Je confronte mon enseignant, mon stagiaire, à l'activité d'un autre enseignant. Qu'est-ce que ça encourage chez le formé ? Bah, d'abord, ça encourage souvent un rappel de souvenirs. Alors, ça peut être un peu contre-intuitif que l'activité d'autrui rappelle des souvenirs de sa propre activité. En réalité, ce qu'on constate dans la recherche, c'est que c'est toujours sa propre activité qu'on voit dans l'activité de l'autre, d'une certaine manière. Quand on partage l'activité de celui qu'on regarde, on ne peut pas s'empêcher de la regarder au prisme de sa propre activité. C'est comme ça. Ça va avoir des conséquences hein, sur la façon dont on va instrumenter la vidéo en formation. Mais donc, il faut le savoir, pour un enseignant, ça va forcément lui rappeler sa propre activité. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez vraiment choisi un extrait vidéo qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que lui a vécu. Et là, je vous prédis une fin funeste. Pourquoi ? Parce que l'autre aspect, c'est que ce qu'on voit, ce qu'on moi je documente dans mon travail de recherche sur ce qui se passe pour les enseignants quand ils regardent des vidéos, c'est qu'il y a une résonance de préoccupation. C'est-à-dire que il y a une immersion dans la situation qui est regardée et il y a une projection de ses propres préoccupations dans l'activité du collègue. Encore une fois, si ça, ça se préoccupe pas, ça se produit pas, c'est que ce qui se passe dans la vidéo n'a pas grand-chose à voir avec ce que vit l'enseignant dans son contexte. Et encore une fois, je ne vous prédis pas une fin heureuse. Donc ça, c'est important parce que cette résonance de préoccupation, ça va être un moteur fort de l'engagement de l'enseignant dans la situation. Parce qu'il va se dire, on est en train de traiter quelque chose qui a à voir avec ce avec quoi je suis aux prises. Et alors ça, en formation des adultes, c'est peut-être le moteur le plus puissant. Il y aura forcément un regard normatif et la production de jugement, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est impossible de l'inhiber. On a toujours un regard normatif, une production de jugement sur cette activité qu'on regarde, pour peu qu'on la partage et qu'on donc on ait un avis normatif sur ces questions-là. Certains collègues vous diront que ces productions de jugement, il faut chercher à les inhiber. Moi, je dirais plutôt qu'il faut chercher à les suspendre temporairement. C'est-à-dire que on va faire des ateliers, donc je pense que vous pourrez en faire vous pourrez en faire l'expérience. Spontanément, ces regards normatifs, ils s'actualisent, quoi. Enfin, ils se produisent. Moi, je pense qu'il faut surtout pas les ignorer, qu'il y a beaucoup de choses à en faire dans la formation. Mais par contre, il faut savoir les instrumenter, c'est-à-dire peut-être que soit on va les accueillir dans un premier temps. Moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionnerais. C'est-à-dire, j'accueillerais plutôt les regards tels qu'ils arrivent, y compris dans une forte normativité. Et puis, je proposerai ensuite qu'on les suspende pour pouvoir rentrer davantage dans une activité de description de l'activité qui soit pas normative, mais qui soit complètement descriptive. On y reviendra plus tard. Enfin, qu'est-ce que ça fait de regarder l'activité d'autrui en vidéo ? Ça produit des attentes. Pourquoi ? Parce qu'on a un collègue qui s'appelle Serge Leblanc, qui est le meilleur en France pour l'instant sur les questions de vidéo-formation des enseignants, et qui dit que la structure d'écoulement de la vidéo, elle est semblable à la structure d'écoulement de notre conscience. Quand on regarde une vidéo, les éléments, ils se déroulent dans la même temporalité que dans les situations réelles qu'on observe. Et donc ça, c'est un phénomène, ça génère quelque chose qui est anthropologique, qui tient à ce qu'on est en tant qu'humain, hein, tout simplement, qui fait qu'on est un petit peu aspiré par cette activité qu'on est en train de visionner. Et donc, forcément, ça génère des attentes. Si vous utilisez la vidéo en diffusant une situation de classe et que vous faites pause à un moment particulier, tous ceux qui l'ont regardé font forcément des suppositions sur ce qui va se passer. Et ça, ça peut être une variable intéressante en formation. Qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les hypothèses qu'on fait sur ce qui va se passer et comment est-ce qu'on discute ça et comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose en formation. Donc la vidéo, c'est un outil qui est très intéressant pour placer les gens en situation d'enquête par rapport à des attentes qu'ils peuvent avoir dans les situations. Et cette génération d'attentes, elle va produire de l'imagination, de la surprise, de l'étonnement qui sont des leviers très intéressants en formation des adultes. Qu'est-ce que ça demande au formateur ? Bah, ça demande de scénariser l'observation en fonction du projet. Alors, j'ai appelé ça un projet d'apprentissage-développement, hein, c'est l'acception la plus large, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez développer chez les gens que vous avez en formation ? Ça va être l'objet de notre scénario de cet après-midi. On va pas animer une formation en se disant « Aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire fonctionner les vidéos. » Enfin, j'espère pas. On va en formation en se disant aujourd'hui je vais chercher à faire apprendre ça à mes stagiaires, je vais chercher à faire développer ça à mes stagiaires. Et je pense que par rapport à ce que nous ont raconté Flandin et Picard pendant deux jours, si j'utilise comme ça la vidéo, j'ai de bonnes chances d'y arriver. C'est comme ça qu'on va réfléchir et qu'on va concevoir nos formations. Donc il faut le scénariser ça. Il suffit pas de montrer des vidéos pour former. Ça peut suffire, mais enfin on peut pas se contenter de ça. Donc ça veut dire qu'il faut scénariser la façon dont on va les utiliser, et puis il faut bien choisir les extraits. Je vous l'ai un peu dit, si ce qui est montré n'a pas grand-chose à voir avec ce qui est vécu, l'engagement a peu de chances de se produire. Enfin, et c'est peut-être l'aspect sur lequel nous, chercheurs, on a le plus de progrès à faire en direction des formateurs, c'est comment est-ce qu'on instrumente l'observation des stagiaires, c'est-à-dire que vous verrez, pour ceux qui n'ont jamais utilisé la vidéo en formation, les moments où ça va pas se passer comme vous voudriez que ça se passe, vous allez forcément faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire que vous allez vous raccrocher à votre expertise de formateur, notamment à votre expertise didactique, et vous allez revenir sur montrer ce que vous voulez qu'ils voient dans vos situations de travail, dans vos situations pardon de vidéo là, et faire du conseil, ce qui est bien, heureusement que vous savez faire ça. Pour autant, il y a vraiment un enjeu dans les formations à savoir se saisir de ce qui vient des stagiaires. Et je vous fais pas un angélisme développemental dans lequel il faut que ça vienne des stagiaires parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre, tatati tatata, hein, c'est pas ça. On est vraiment sur ce qu'on sait de la formation des adultes. C'est-à-dire que si on arrive à tirer parti de ce que eux mettent dans l'espace de la formation, qui vient de leur propre expérience, et en faire un objet d'expérience pour tout le monde, alors là, on a un levier de formation qui est puissant. Mais c'est difficile à faire. Parce que ce qui émerge de l'observation vidéo, c'est difficilement prédictible. Plus vous allez le faire, plus vous saurez ce qui est susceptible d'émerger lorsque des enseignants sont confrontés à telle ou telle vidéo. Mais ça a toujours un caractère un peu imprévisible. Et pourtant, il faut savoir s'en saisir, il faut essayer de s'en saisir et d'en faire un objet d'apprentissage. Il est 10h30, je vais simplement faire cette diapo pour finir les configurations. Lorsqu'on est en allo-confrontation collective, on a un groupe là à qui on passe des situations d'enseignement qui sont vidéoscopées. Ça encourage les mêmes choses que précédemment. Il se passe pour chacun des enseignants qui sont là la même chose que pour un enseignant tout seul. Mais ce qui va arriver en plus, ce sont des débats d'interprétation. C'est-à-dire que quand on est plein à regarder une vidéo, on a chacun une lecture de la vidéo et ça veut dire qu'on va pas être d'accord sur ce qu'il y a à comprendre de la situation. Donc ça va susciter du débat d'interprétation sur les préoccupations de l'enseignant, sur son projet pédagogique, sur ce qu'il est en train de faire concrètement en termes de méthode, en termes de gestes, en termes d'activité, sur l'activité des élèves, la façon dont ce qu'on comprend de ce que font les élèves, de ce qu'ont compris les élèves. Et donc, encore une fois, il va y avoir un débat de normes, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord avec ce que fait le collègue ? Cette question pouvant être prise de multiples façons. Qu'est-ce que ça demande aux formateurs ? Encore une fois, ça demande les mêmes choses que pour la confrontation individuelle. Ça demande de scénariser, de bien choisir les extraits vidéo et de réguler l'activité, puis d'accueillir autant que faire se peut ce qui vient du stagiaire. Mais encore une fois, ça demande en plus une forme de régulation et du multi-adressage. On a toutes ces expériences-là qui se manifestent par l'observation que font tous les stagiaires de la situation vidéo, et il va falloir être capable de réguler ça et de le réadresser. C'est pas une mince affaire. Vous le savez, parce que même si vous n'avez pas utilisé la vidéo, vous avez toujours été dans des situations dans lesquelles vous avez des collectifs avec des stagiaires qui vont interpréter de différentes manières et vous avez eu cette fonction de gérer les échanges, encourager certaines interprétations qui vous semblent plus fécondes, décourager certaines interprétations qui vous semblent moins fécondes, tout en signifiant au stagiaire que c'est quand même bien ce qu'il a dit. Tout ça, vous l'avez tous fait. Bon, ça, on le retrouve ici. Mais je dirais que si vous essayez de le faire avec de la vidéo, au début, vous risquez d'être un petit peu désarçonné parce que ça peut être un peu plus difficile, en tout cas, puisqu'on s'est déjà intéressé à l'activité des vidéoformateurs débutants. On a vu que souvent, ça, c'était un peu difficile. Comment est-ce que j'arrive à faire jouer ces multiples points de vue qui s'exercent là sur la vidéo sans, à un moment donné, faire comme si je les écoutais, dire oui, et puis en fait, à la fin, je mets tout de côté, puis je dis moi ce que j'ai envie qu'ils voient. Ça, c'est très compliqué. Voilà. On va peut-être prendre une ou deux questions sur ces aspects-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette définition. Alors, vous ne vous formez pas des enseignants. J'allais dire, je ne sais pas si vous connaissez cette définition du travail enseignant que propose un chercheur qui s'appelle Roland Guagou, qui travaille notamment sur l'enseignement de la lecture, qui dit l'activité enseignante, c'est une activité multifinalisée, multi-adressée. C'est-à-dire qu'elle poursuit, et je dirais que le formateur, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il poursuit différents... alors, il a un projet global d'apprentissage-développement pour les gens qu'il a dans sa formation, mais il peut avoir, surtout si c'est des gens qui revoient beaucoup, notamment en formation initiale, il peut avoir aussi des projets différenciés en fonction des différents stagiaires qu'il a là. Donc, il a son activité donc multi-finalisée. Et elle est multi-adressée parce que, bien que la plupart du temps, comme je suis en train de le faire, j'ai un seul discours pour 50 personnes, en réalité, il faudrait que j'ai 50 discours. Alors, évidemment, on différencie jamais systématiquement pour tout le monde. Et le fait que j'ai un seul discours pour 50 personnes, c'est que je fais l'hypothèse de formation que ce seul discours est formateur pour les 50 personnes. C'est ça l'hypothèse qu'on fait. Mais mon discours, il est quand même multi-adressé. Et dans les moments où on va être justement moins dans une configuration magistrale que celle-là, je vais essayer de faire jouer davantage ce multi-adressage. Si je viens vous voir travailler, je sais que vous ne formez pas des enseignants. Donc, je vais essayer de faire en sorte d'adapter mon discours pour quelqu'un qui ne forme pas des enseignants. C'est pour ça que Patrick a passé un petit moment ce matin à ce qu'on essaye de, dans les grandes lignes, de voir est-ce qu'on parlait à des gens du primaire, est-ce qu'on parlait à des gens du secondaire, des gens qui forment dans le supérieur, parce que même si on fait l'hypothèse que tout ce qu'on vous raconte là peut vous être utile à tous, il va y avoir des petites variations selon votre public, selon vos contextes d'intervention. Alors je vais répondre en deux temps. Le premier temps, c'est sur la question méthodologique. À quel moment est-ce qu'on traite cette question véritablement de la captation ? C'est pas au programme de la plénière, mais ce qu'on a peut-être pas dit ce matin, c'est que dans les temps d'atelier, vous avez vu, il y a du temps d'atelier quand même assez conséquent sur les deux jours. Il faudra pas hésiter. Alors nous, on va passer avec Patrick. Il faudra pas hésiter justement à nous solliciter sur des aspects qui vous intéressent spécifiquement, parce que pour telle ou telle raison, c'est un point de préoccupation particulier pour vous. Donc dans les temps d'atelier, quand je viens vous voir, on passe un petit moment là-dessus sur les questions de captation. Dites-moi. Ouais. Alors ça, c'était la deuxième partie de ma question du coup. Dans la suite de ma présentation cet après-midi, on va questionner ça, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on veut faire en formation, quel type d'extrait globalement on utilise. Mais pour répondre tout de suite sur la question de la perturbation du réel, souvent, on est presque un peu trop précautionneux par rapport à ça. On a raison d'être précautionneux, faut toujours être précautionneux. Mais très souvent, on pense que le simple fait d'être dans la classe, même si on est au fond de la classe, ça va être perturbant. Oui, quand il y a un grand costaud qui se met entre nous, ça perturbe un peu. Ça va être perturbant pour la situation de classe. Ça l'est un petit peu au départ, mais si vous avez l'occasion de le faire de façon un peu régulière, je prends l'exemple de ma thèse, j'y suis pas allé beaucoup, hein. J'y suis allé trois fois dans les situations de classe des enseignants. La première fois, au début du cours, il y a un petit peu de perturbation avec des élèves de sixième. Bon, ils jouent un peu. Les élèves de seconde, ils aiment pas trop être filmés. Ils se filment toute la journée avec leur smartphone, mais il y a quelqu'un d'autre qui les filme, ils aiment pas trop. Au bout de trois cours, moi, j'avais des élèves qui jouaient aux cartes devant moi. C'est-à-dire que il faut pas sous-estimer la puissance de la configuration pédagogique, du format pédagogique. Vous êtes derrière eux. Les élèves, même s'ils sont engagés dans une activité qui n'est pas l'activité scolaire, comme par exemple jouer aux cartes, ils vous oublient très rapidement. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point les élèves qui ne vous voient pas vous oublient. Et puis, je pense que bientôt, alors c'est pas trop au point, on y travaille encore, mais c'est vrai qu'avoir des dispositifs qui permettent même de filmer en l'absence de l'enseignant avec un petit support, une petite tablette, ça peut être intéressant. Et c'est, oui, voilà, je peux vous le dire comme ça. Si vous avez un compte sur YouTube, depuis peu, YouTube permet même la diffusion en direct. Si vous avez besoin de faire une web diffusion, maintenant c'est très simple, hein. Vous pouvez le faire. Enfin, c'est très simple. On y travaille encore un peu, mais c'est assez simple. Donc voilà, vous avez raison de vous préoccuper du degré de perturbation de la situation, ça c'est clair. Mais voilà, j'aurais tendance, comme Patrick, à être un peu rassurant sur si on prend les bonnes précautions, voilà, si on prend les bonnes précautions, on arrive quand même à pas trop, voire pas du tout, perturber les situations qu'on enregistre.
Juste cette idée-là, je pense.
Oui, non, puis il faut, enfin, encore une fois, quand on dit reconvoquer le réel, si on est par exemple dans une situation d'autoconfrontation dans laquelle on va chercher à aboutir à une interprétation partagée avec l'enseignant, par exemple, sur vous êtes conseiller pédagogique, vous avez un débutant un peu en vrac, vous êtes dans cette situation dans laquelle vous vous dites mais bon, sans par où je vais commencer, il y a rien qui va. L'autoconfrontation, c'est un bon outil à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va reprendre la situation. Alors là, pour le coup, on va être dans une restitution assez neutre, plan large. On essaie juste de regarder la situation et on va essayer de documenter cette situation dans toutes ses dimensions possibles. On ne va pas restreindre. Mais vous pouvez très bien, comme vient de le montrer Patrick, être dans une autre utilisation de la vidéo avec un projet didactique assez fort. Je veux dire, c'est pas antinomique. C'est simplement qu'est-ce qu'on veut faire avec les gens qu'on a dans la formation. Dans laquelle vous allez, avec un smartphone, aller filmer ce que font les gamins parce que vous avez besoin dans votre formation de voir ce que font les gamins par rapport à tel ou tel projet didactique. Il n'y a pas un bon usage de la vidéo. Je pense que vous avez compris. Mais voilà, il faut bien penser toujours que, et c'est pour ça qu'on va en faire des tonnes sur la conception dès cet après-midi. Si vous allez filmer dans la classe, il faut déjà quasiment que la formation qui doit exploiter les matériaux, elle soit déjà ficelée. Puisque cette vidéo doit instrumenter votre situation de formation, même si ça doit se passer dans longtemps. C'est pour ça qu'on va vraiment faire des tonnes, et quand je dis des tonnes, c'est des tonnes, hein, sur l'importance de la conception de la formation, qu'elle soit hybride, pas hybride, qu'elle mobilise de la vidéo, pas de la vidéo.